Chers amis, bonjour. Nous continuons à explorer les questions actuelles que pose la laïcité aujourd'hui. Une autre remise en question quasi permanente du laïcisme concerne l'enseignement privé, spécialement à travers les crédits publics qui lui sont alloués. La prochaine loi sur la scolarité obligatoire à 3 ans ne manque pas de faire ressurgir ce vieux serpent de mer. Pour illustrer ce problème récurrent, voici un texte extrait des Assises nationales laïques, tenu le 24 juin 2001. Au nom de la loi Debré, aggravée par toutes les autres lois anti-laïques, l'État va verser près de 38 milliards de francs en 2001 à l'enseignement privé, à 95% catholique. Cela représente 200 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation nationale, charges sociales comprises, qui sont ainsi directement volés à l'enseignement public. Imaginez un seul instant ce que cela donnerait. 200 000 emplois en plus dans nos écoles. Il n'y aurait plus de classes surchargées. Les élèves auraient assez de surveillants pour éviter tous les problèmes de violence et d'insécurité qu'on connaît aujourd'hui. On ne connaîtrait plus autant d'échecs scolaires et ce nombre ahurissant d'élèves n'ayant pas les connaissances minimales pour lire, écrire et compter correctement. Il convient de s'inscrire en faux contre de telles déclarations, qui existent encore, et cela pour deux raisons. Une décision du Conseil constitutionnel en date du 23 novembre 1977 a définitivement clos le débat sur la liberté de l'enseignement, reconnue par la Révolution française en 1795, dans la Constitution de l'an III, supprimée par Napoléon en 1808, puis rétablie par étapes en 1833, 1850 et 1875. Et en 1919, cette liberté a tout naturellement été étendue aux secteurs qui ne relevaient pas de l'instruction publique, dont l'enseignement professionnel, c'est la loi Astier sur l'apprentissage, et l'enseignement agricole. Deuxièmement, les contrats d'association de la loi Debré du 31 décembre 1959 n'ont-ils pas été les premiers exemples de cette politique contractuelle de l'État? Celle-ci a été décidée sur la base du raisonnement suivant. L'importance de l'enseignement libre en France, surtout dans les départements de l'Ouest, est telle qu'une étatisation complète de cet enseignement représentait un coût non supportable par la nation. Ceci a conduit l'État à n'assurer que le fonctionnement de l'enseignement privé, laissant de côté le financement des investissements, des aménagements et des grosses réparations. On sait que l'article 69 de la loi Falloux de 1850 limite à 10% des budgets des établissements secondaires privés le montant des crédits d'investissement que ces derniers peuvent obtenir de l'État ou des collectivités territoriales. Curieusement, ce plafond de 10% n'est pas dû à une parcimonie de la Deuxième République, mais à la méfiance des évêques de l'époque à l'égard de crédits dont l'attribution aurait pu créer une dépendance financière. Aujourd'hui, ces crédits permettent tout juste d'entretenir une partie du patrimoine et ne permettent en aucune façon le financement de constructions nouvelles, qui doivent faire appel à d'autres sources de crédit. Dans le cadre de la décentralisation, des départements pour les collèges et des régions pour les lycées ont cru pouvoir attribuer des subventions d'équipement ou accorder des prêts à l'enseignement libre. Mais de telles opérations, taxées d'irrégularité par le contrôle de l'égalité, ont dû être suspendues. C'est pour cette raison qu'en 1996, le gouvernement Balladur avait préparé un projet de loi pour pallier à ces difficultés, toujours avec l'argument que l'enseignement privé était nécessaire, ne serait-ce que techniquement, pour assurer la scolarité de tous les jeunes Français. Ce projet a été fort mal accueilli et a dû être retiré. La question aujourd'hui reste cependant entière. Quelle solution trouver pour permettre aux établissements privés d'accomplir, dans des locaux décents dont ils sont propriétaires, leur mission de participation au service public de l'enseignement? Le vieil adage « à école publique, fonds publics, à école privée, fonds privés » apparaît largement obsolète, car sa stricte application est discriminatoire. Elle impose à l'enseignement privé une restriction qui ne joue pas, pour d'autres secteurs d'activité, couverts par le partenariat et le mécénat de l'État. On pourrait dire de même sur le principe tacite et non écrit de la répartition des moyens à la hauteur de 80% pour l'enseignement public et de 20% pour l'enseignement privé. Non seulement cette proportion n'est pas tenue, mais elle va d'une certaine manière contre le principe d'égalité. Puisque l'enseignement privé rend un service public reconnu par contrat avec l'État, les mêmes moyens devraient être accordés à tous les établissements, quel que soit leur statut, suivant la qualité de l'enseignement dispensé, qui est largement reconnu même par l'État, le nombre d'élèves, la mission à accomplir, etc. Lors du congrès national du SNEL des 24 et 25 janvier 2019 sur le 60e anniversaire de la loi Debré, Madame Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il y a là une véritable injustice dans la répartition des moyens. Et elle a appelé de ses voeux une véritable parité de traitement entre enseignement public et enseignement libre, et de nouvelles formes de contractualisation pour financer au mieux les établissements privés, y compris ceux actuellement hors contrat. Mais on sait que ce point est extrêmement sensible pour les tenants du laïcisme, le contrôle de l'enseignement ayant été le cheval de bataille de la République depuis la Révolution française. De nombreuses tentatives sont régulièrement faites pour tenter de réduire la liberté d'enseignement reconnue par notre Constitution, parfois de façon très subtile, voire sournoise. Un signe en est l'accumulation de normes, de règles, de contraintes imposées aux établissements, qui doivent être gérées par les chefs d'établissement privés et leurs équipes, et qui leur donnent de plus en plus ce sentiment d'être considérés comme des chefs de service par le rectorat, au même titre que ceux du public. La guerre scolaire peut toujours se réveiller. Ni l'Église, avec l'enseignement catholique, ni l'État n'y ont intérêt. On voit donc que le laïcisme n'est pas qu'une question posée à l'Église. Il l'est également pour l'État. Et celui-ci est confronté à un autre mouvement, la laïcisation de la société. C'est ce que nous verrons la prochaine fois.